Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Quelle recherche mènent les doctorants? Pourquoi écrivent-ils une thèse? Est-ce simple, enthousiasmant ou difficile de s'atteler à un travail de plusieurs années? Aujourd'hui, Florence Britton, doctorante au laboratoire AMUR, aménagement des usages, des ressources et des espaces marins et littoraux, et à l'école doctorale des sciences de la mer et du littoral, présente son sujet de recherche, les raisons de ce choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, la pêche durable, son titre, évaluation de règles de contrôle des captures pour des pêcheries mixtes sous quota.
Bonjour Florence Britton, vous avez soutenu votre thèse le 16 décembre dernier en vidéoconférence. Comment cela s'est-il passé ?
Bah écoutez, plutôt bien. Et comme vous le disiez, en vidéoconférence suite aux directives liées à la condition sanitaire. Alors techniquement, ça s'est bien passé avec des membres de jury à travers le monde, en Australie, au Canada, en Europe. Et ce, grâce, je pense, à des d'importants progrès en termes de plateformes de communication à distance au cours de la dernière année. Outre ça, en fait, l'exercice même de la soutenance de thèse, qui consiste à se tenir pendant 3 heures devant un jury, c'est un exercice intense, mais qui a le mérite de marquer l'aboutissement de 3 années de travail. Et finalement, je trouve que c'est une vraie chance qu'on a en tant que jeune chercheur de voir notre travail épluché, discuté et mis en perspective par des chercheurs qui sont plus expérimentés que nous.
Oui. Est-ce que vous pourriez rappeler le sujet de votre thèse ?
Alors, la thèse, elle avait pour objectif de proposer une approche de modélisation qui serait à même d'accompagner la gestion des pêcheries mixtes. Donc, c'est des pêcheries où plusieurs espèces sont capturées simultanément. Et ce, sous une régulation à l'aide de quotas de pêche. Donc cette approche, appelée une approche de co-viabilité, elle permet d'identifier des quotas pour des espèces capturées simultanément qui répondent à différentes contraintes de viabilité simultanément. Et ces contraintes, elles peuvent avoir trait à des contraintes de viabilité biologique, des contraintes de viabilité économique et aussi des contraintes d'acceptabilité.
D'accord. Je rappelle que c'est un outil, hein, c'est un outil de simulation, donc c'est un logiciel dans lequel vous rentrez toutes ces contraintes et ça vous aide à explorer des situations, hein, c'est ça ?
Social. C'est ça, il y a un modèle bioéconomique de la pêcherie et ensuite un ensemble de contraintes pour la pêche.
Une visualisation des données que vous rentrez pour explorer des scénarios. Okay. Votre logiciel, l'outil que vous avez développé, oui, est basé donc sur cette modélisation. Et il intègre des données très hétérogènes, hein, écosystémiques, économiques, sociales. Comment avez-vous procédé pour recueillir ces données, notamment les données sociales ?
Alors oui, comme vous le disiez, la calibration d'un modèle bioéconomique du type de celui utilisé, elle repose sur l'intégration d'un large éventail de données. Alors j'ai personnellement pas pris part à la récolte des données, mais j'ai plutôt été utilisatrice de données préalablement recueillies, et éventuellement traiter et analyser. Alors certaines de ces données, elles sont en accès libre, comme par exemple des paramètres économiques produits par des instituts de statistique. D'autres sont issues de la littérature scientifique. Et certaines données sont plus compliquées à obtenir, car non diffusées à large échelle. C'est par exemple le cas des paramètres biologiques qui permettent de calibrer les modèles de dynamique de population des espèces pêchées, qui sont rarement publiés. Donc dans ce cas, il faut prendre contact directement avec les personnes qui produisent ces données, de manière à les obtenir. D'autres données sont aussi soumises à des clauses de confidentialité, comme par exemple les données économiques des entreprises de pêche. Et dans ce cas, alors il est parfois possible d'obtenir des versions anonymisées des jeux de données sur lesquels on peut directement travailler. Sinon, il faut travailler en étroite collaboration avec les personnes qui ont un accès direct à ces données, de manière à ce qu'ils puissent les agréger à une échelle qui permette leur diffusion et hors des cercles de confidentialité.
D'accord.
Et, Et en fait, par rapport à votre mention de données sociales, je parlerais plutôt dans mon cas de dimensions sociales qui sont adressées à l'aide de données économiques. Donc, je me suis par exemple intéressée à la question de la distribution des bénéfices que l'on peut tirer de l'exploitation de biens communs comme les ressources halieutiques, en cherchant notamment à identifier des niveaux de capture pour les espèces exploitées, donc les quotas, qui permettent non seulement une activité de pêche profitable, mais qui permettent aussi d'assurer une rémunération suffisante aux équipages et un prix du poisson qui reste abordable pour le consommateur.
D'accord, oui. En fait, il vaut mieux parler d'objectifs sociaux, mais qu'on peut explorer à partir de données qui rendent compte de ces objectifs, comme un partage de bénéfices ou le partage du travail et de ce qu'il rapporte.
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que vous avez pu recueillir l'avis de professionnels sur les simulations que vous pouvez faire avec votre logiciel ?
Alors, en Australie, plus particulièrement, oui. C'est peut-être lié en fait au contexte dont la gestion s'opère dans ce pays. Là-bas, la gestion des pêcheries, elle se fait de manière plus collaborative qu'en Europe. En tout cas, pour tout ce qui a trait aux décisions en termes de quotas sur les stocks gérés, qui en Europe se font à l'échelle de l'Union européenne, alors que là-bas, ça se fait de manière plus locale et ce qui permet une collaboration plus étroite. Et entre les différentes parties prenantes de la pêcherie. Alors, par exemple, la proposition de quotas aux instances qui seront aux instances décisionnelles, donc des organes ministériels et qui vont proclamer chaque année les quotas autorisés sur ces pêcheries-là. La proposition de quotas qui sont faites à ces instances décisionnelles, elle se fait sur la base de décisions collectives. Ils mettent scientifiques, gestionnaires, professionnels du secteur, éventuellement pêcheurs récréatifs s'ils ont un rôle important dans la pêcherie. Ils mettent tous ces gens-là autour de la table. Et finalement, j'ai eu la chance de pouvoir présenter une partie de mes travaux lors de ces réunions et d'avoir des retours qui ont fait évoluer ma modélisation.
D'accord, très, très intéressant. Oui, il faut rappeler que vous aviez deux terrains. Un, le golfe de Gascogne, donc voilà, chez nous, et la Tasmanie. Alors, comment on se débrouille avec des contraintes géographiques aussi immenses, puisque la Tasmanie, c'est l'autre côté de la Terre?
Bah oui, tout à fait. Bah, je dirais qu'il faut aimer faire rentrer sa vie dans une valise. Ça me paraît assez difficile de travailler sur un cas d'étude sans se rendre directement sur place pour comprendre comment le système fonctionne en interagissant avec les personnes qu'ils connaissent, tout simplement, et en l'observant fonctionner aussi.
D'accord.
Donc, dans mon cas, j'ai alterné séjour à Brest, séjour en Tasmanie, avec une première année de thèse à Brest, suivie d'un an et demi à Hobart, en Tasmanie, puis un retour en France pour les 6 derniers mois. Et même au sein de ces périodes relativement étendues dans chaque ville, j'ai profité de conférences qui parfois se déroulaient à l'autre bout du monde pour faire des crochets soit à Brest, soit à Hobart et revoir mes encadrants des deux côtés plus fréquemment. Et du coup, oui, en termes d'encadrement, j'avais 4 encadrants de thèse, 2 directeurs de thèse, un en France, un en Tasmanie, et 2 co-encadrants, là aussi, un en France, un en Tasmanie. Ce qui demande aussi savoir gérer une grosse équipe encadrante. Dans mon cas, j'ai eu la chance aussi que c'était des personnes qui avaient déjà travaillé ensemble, qui avaient déjà co-encadré des thèses ensemble, donc... qui avait un peu l'habitude de cette manière de fonctionner. Mais ça a des contraintes techniques. On empiète un peu sur les soirées ou les matinées pour voir être tous ensemble en visio. Du coup, oui, on avait déjà un peu testé la visio avant l'heure du confinement, évidemment. J'avais un contact plus direct avec les encadrants sur place, donc qui permettent à répondre un peu du tac au tac, des questions urgentes. Mais voilà, quand même régulièrement, je dirais peut-être tous les mois, les deux mois, des points avec toute l'équipe encadrante de manière à suivre la continuité du travail, veiller à ce que tout le monde soit tenu au courant des évolutions et aussi s'assurer que tout le monde est d'accord avec.
D'accord. Oui, vous m'aviez aussi indiqué qu'il y avait...
Donc aussi en termes... Pardon.
En termes économiques, quoi.
Ouais, c'est ça. En termes économiques, vous imaginez bien que ça a un coût d'avoir deux chez soi, deux bureaux. Mais j'ai pas financé les voyages moi-même. Donc en fait, en tout début de thèse, j'ai monté plusieurs dossiers de réponse à des appels de bourses qui m'ont permis de financer ces allers-retours.
D'accord. Oui, le chercheur, c'est un chercheur et c'est aussi quelqu'un qui fait des dossiers pour avoir de l'argent. Hein. Et en plus, il enseigne. Quel est l'intérêt de comparer la gestion des pêcheries du golfe de Gascogne et de Tasmanie ?
Écoutez, ça permet de mettre en lumière des différences dans la gestion de pêcheries qui, sur le papier, présentent des caractéristiques communes. On peut, par exemple, citer la manière dont sont gérés et alloués les quotas en France et en Australie. En France, par exemple, la gestion des quotas, elle se fait principalement par les organisations de producteurs qui se voient allouer des quotas et ensuite sont en charge que leurs membres sont en charge de la gestion de ces quotas et leur bonne utilisation par leurs membres. Dans la pêcherie aux salaines qui est étudiée, la gestion, elle, se fait à l'aide de quotas individuels transférables. C'est-à-dire que les quotas de la pêcherie sont divisés en parts qui sont détenues par des individus privés. Et ces parts peuvent être louées ou vendues entre détenteurs de quotas qui ne sont pas nécessairement des pêcheurs et les pêcheurs eux-mêmes qui ont besoin des quotas pour pêcher. Et donc finalement, mettre le doigt sur de telles différences de gestion pousse à se poser la question des tenants et des aboutissants, des avantages et des inconvénients des différentes approches.
D'accord, oui.
Avoir deux cas d'étude aussi et naviguer entre les deux, ça permet de faire voyager des approches, faire voyager des bonnes idées et finalement... Dans chaque cas d'étude, les gestionnaires des différents cas d'étude peuvent avoir des retours sur ce qui peut se passer ailleurs dans le monde et faire évoluer leur mode de gestion à eux aussi.
Pertinent. Aujourd'hui, après avoir soutenu, donc, est-ce que vous définiriez les deux objectifs de départ, création d'un outil qui intègre la complexité d'un système bioéconomique et proposition de quotas dans les mêmes termes à peu près?
Principalement, oui. J'ajouterais peut-être qu'au-delà du développement de l'outil lui-même, se sont posées des questions liées à son utilisation.
Oui.
Et en d'autres termes, son aptitude à informer et aiguiller la prise de décision relative aux quotas dans un contexte de pêcherie mixte. Donc c'est vraiment la question de son utilité, de son utilisation qui est révélée importante au cours de la thèse et sur laquelle j'étais amenée à réfléchir.
D'accord. Quel travail supplémentaire serait-il nécessaire pour finaliser l'outil et surtout justement pour étendre son utilisation aux professionnels de la pêche ?
Oui, alors il est peut-être... il est sûrement... très probable que l'outil ne se finalise jamais, mais qu'il continue d'évoluer au gré de son utilisation.
Oui.
Donc finalement, ça commencerait par étendre son utilisation pour, comme vous le dites, pour le voir évoluer et s'adapter. Et donc pour étendre son utilisation, je dirais qu'il faut poursuivre l'exercice de communication auprès des instances en charge de l'appui à la gestion. Donc ça consiste à démontrer l'intérêt de l'approche grâce à la communication des travaux qui ont été entrepris, de manière à susciter l'intérêt. Et en fait, c'est un peu vendre son produit en quelque sorte. Et ensuite, il faut apprendre à l'utilisateur à s'en servir, donc fournir une notice ou l'accompagner personnellement. Donc il s'en suivrait du coup une phase de familiarisation et de formation à l'outil qui ensuite continuera d'évoluer parce que finalement en creusant des choses, on découvre de nouvelles questions intéressantes et c'est toujours un travail en cours d'évolution, work in progress, comme on dirait.
D'accord, oui. Souhaitez-vous justement continuer ce travail ou confiez-le, vous le confiez à d'autres équipes, à d'autres chercheurs, d'autres gens chez Amur, par exemple.
Oui, alors personnellement, non, je vais pas forcément continuer à porter le flambeau.
Disons il va être repris cet outil par d'autres personnes.
Oui, oui, tout à fait. Et en fait, moi-même, j'étais repris. Enfin, j'étais partie de choses qui avaient déjà été développées au cours de précédentes thèses, au cours de même précédents travaux en appui à la gestion. Typiquement, le modèle que j'ai utilisé, je suis partie d'un modèle qui avait déjà commencé à être développé. J'en ai fait une version qui répondait à mes besoins, mais j'étais partie de quelque chose déjà d'existant. De même, l'approche de co-viabilité, donc le fait d'imposer des contraintes, de réfléchir à des solutions, des trajectoires pour le système qui répondent à une diversité de contraintes de viabilité. Ça aussi, ça avait été exploré par des doctorants du laboratoire, d'anciens doctorants, oui, du laboratoire Amur. Donc c'est un thème de recherche, un sujet de recherche qui est déjà porté par le laboratoire et qui, à mon avis, continuera d'être porté par le laboratoire.
Oui, c'est un travail vraiment d'équipe. Parce que quelquefois, on imagine le chercheur un peu seul, qui tout d'un coup a des idées. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Vous avez hérité d'une littérature, d'un travail, vous l'avez poursuivi et vous l'avez amené plus loin. Allez, ouais. À l'issue de ce travail, pourriez-vous résumer en quelques mots les compétences qu'un doctorant acquiert dans ce type de sujet, de projet, en réalisant sa thèse? Il y a des compétences scientifiques, mais il faut mettre en œuvre beaucoup de compétences pour réaliser un tel travail sur plusieurs continents, réunissant plein de monde, etc., etc. Donc, quelles compétences peut se prévaloir un doctorant qui vient de finir ce travail?
Alors, peut-être, en écho à mon expérience en particulier et même mon expérience dans un domaine de recherche qui est l'appui à la gestion, je dirais qu'on apprend à être à l'écoute du terrain, parce qu'il s'agit de répondre à une certaine demande. Donc, ça nous force à écouter, à s'imbiber, entre guillemets, de cette demande et de bien la cerner. Je dirais qu'on apprend aussi à bien s'entourer, et en particulier sur tous ces sujets qui sont à cheval entre plusieurs disciplines et où on se retrouve souvent hors de notre zone de confort. Donc on apprend à aller toquer aux bonnes portes pour faire avancer sa recherche, trouver des réponses, que ces portes soient au sein de l'université, au sein du laboratoire ou même aux côtés des gestionnaires ou des professionnels.
Oui, oui, vous explorez un problème et sa dimension technique, sociale, économique, géographique, et vous répondez à tous ces problèmes au fur et à mesure qui se posent à vous. Si ouais, on oublie, hein, on oublie coup, trop souvent que...
Ça demande souvent d'accepter qu'on ne sache pas et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, en fait. Rester humble face à ça. Et c'est pas grave de ne pas savoir tant qu'on ose l'admettre et qu'on ait envie de répondre.
On oublie qu'un doctorant, c'est un chef d'entreprise, parce qu'il a une grosse entreprise. Est-ce que, à ce stade, vous auriez des conseils, voilà, vous êtes maintenant chercheuse, des conseils en matière de méthode de travail, à donner à des doctorants? Alors évidemment, selon les disciplines, selon les cas, selon les thèses, tout cela varie, mais est-ce qu'on pourrait imaginer des conseils généraux un peu à donner à vos camarades doctorants qui ont encore le caporne devant eux, qui ont encore la thèse à faire, quoi. Je dis ça parce qu'il y a le Vendée Globe là en ce moment. Hein.
Effectivement, je pense qu'il y a, il y a des conseils. Je pourrais donner certains conseils. Je pourrais par exemple dire qu'il ne faut pas hésiter à parler de son travail, et ce à tous les stades. Et qu'on a peut-être trop tendance en tant que scientifique à vouloir attendre qu'un travail ou qu'une étude soit aboutie avant de commencer à en parler. Mais oui. Mettre assez tôt son travail à l'épreuve du feu, ça permet aussi des retours constructifs. Et que c'est finalement, d'ailleurs, même dans les moments de plus grand doute, et lorsqu'on a le moins envie de montrer son travail, qui peut être le plus bénéfique de sortir de son antre et un peu d'affronter l'adversité. Parce qu'en fait, c'est là qu'on réalise que malgré toutes les objections qu'on peut soi-même faire à son propre travail, il y a en fait souvent des gens qui trouvent ça intéressant. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est intéressant. Donc ça permet de relancer la machine, de remotiver. Et puis ces personnes d'ailleurs peuvent même être à même de débloquer des problèmes. Donc voilà, de ne pas s'enfermer, toujours se dire qu'en fait peut-être que la solution est dehors, et ça fait vachement du bien des fois de sortir un peu de l'entre-soi.
Oui, bien sûr.
Et puis, si un autre conseil, c'est de veiller à s'entourer de personnes avec lesquelles on apprécie travailler.
Oui.
Parce que je pense qu'on a la chance en recherche de pouvoir, en tout cas dans une certaine mesure, choisir ses collaborateurs. Et donc, ce serait dommage de s'en priver. Donc, voilà, on peut en profiter.
Ben, oui, il faut encore pouvoir le faire aussi. Bon, mais là, ça s'est passé pour vous. C'est une belle histoire. Et alors, une question. Bon, vous soumettez votre travail à une question imprévue, à vos camarades chercheurs, vos collègues chercheurs, mais est-ce que ça vous a servi de discuter avec des profanes, avec des gens comme moi qui connaissent pas le sujet, ou vos parents, vos amis, etc.
Oui. Mais d'ailleurs, je pense que si je reviens, reviens vous voir, c'est aussi parce que j'apprécie ça. Et...
ça me fait plaisir.
C'est quelque chose, en fait. Ouais, c'est. Ça permet de faire. De regarder avec un peu de recul sur ce qu'on. Notre propre travail. On apprend aussi des choses parce que essayer de vulgariser son travail, ça demande aussi de revenir à certains béabas qu'en fait on avait peut-être un peu survolé.
Oui.
Et ça permet de renforcer aussi des compétences et des connaissances dans des domaines qu'on pensait avoir, dans des sujets qu'on pensait maîtriser. En fait, on se rend compte que non, c'est peut-être plus vaste que ce qu'on pensait. Donc oui, ça apporte aussi, même à celui qui vulgarise, ça apporte.
D'accord, oui, la question naïve peut apporter. Bon, maintenant, vous voilà doctorante, brillamment en plus, je crois, enfin, parce que vous avez, derrière vous, à côté de vous, il y avait des chefs de labo, il y avait du monde en Australie, il y avait du monde en France, il y avait peut-être du monde ailleurs, je crois qu'il y avait des Allemands aussi, j'ai vu dans le jury. Eh bien, qu'est-ce que vous allez mettre à profit pour la suite, votre titre de doctorant, vos compétences en économie, en écologie, votre capacité d'entrepreneur, pour d'éventuels d'autres projets pour la poursuite de l'aventure?
Je pense que cette thèse qui vise un peu à montrer les arbitrages entre différents objectifs, qui visent à voir s'il n'est pas possible de réconcilier ce qu'on pensait irréconciliable. Ça m'a formé justement à l'étude des systèmes complexes et à l'identification de compromis. Et ça, je pense que c'est une question de recherche qui me plairait d'explorer, et peut-être dans d'autres systèmes. Pas forcément des systèmes maritimes, pas forcément de la gestion de la pêche, mais il y a une ribambelle d'autres systèmes dont la gestion est complexe et repose et demande de un certain nombre d'arbitrages. Donc peut-être appliquer ce type de réflexion à d'autres systèmes.
D'accord, oui. Je pense par exemple à l'agriculture, partout où il faut mêler écologie et économie. À ce sujet, alors je rappelle aux auditeurs que la bibliothèque de l'UBO et le service communication de l'UBO organisent un cycle de rencontres sur les relations entre écologie et économie, qui justement explore ces relations qui peuvent être parfois très contradictoires, il faut le dire quand même, et parfois aussi qui convergent quand des acteurs du développement durable s'en saisissent.
Merci à Florence Britton, doctorante à l'École doctorale des sciences de la mer et du littoral et au laboratoire AMUR, aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux. Dans la prochaine émission du Lab U, nous nous intéresserons à l'agriculture durable. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.